France Inter, franceinter.com.
Il paraît surprenant que l'Afrique n'ait pas été identifiée du premier coup comme la seule région du monde où il fallait chercher les premières traces de l'espèce humaine. Pierre Teilhard de Chardin, 1954. Ans d'histoire. Le 30 novembre 1974, une équipe de paléontologues dirigée par Yves Coppens, Maurice Taïeb et Donald Johansson effectue des fouilles sur le lit d'un fleuve éthiopien desséché lorsqu'au milieu des cailloux, ils découvrent une quantité de petits os. Un os pelvien, un sacrum, des côtes, des vertèbres, des fragments d'humérus, de fémur et un bassin de femme. Au total, 52 ossements. Jamais encore on avait vu un squelette aussi complet d'Australopithèque, ces ancêtres de l'homme qui, il y a plus de 3 millions d'années, parcouraient la savane africaine. Enthousiasmés par leur découverte, les membres de l'expédition en discutent toute la nuit en écoutant à la radio les Beatles chanter « Lucy in the Sky ». Et c'est ainsi qu'au milieu du désert, les paléontologues ont donné le nom de Lucy au plus célèbre représentant des ancêtres de l'homme, ceux qui avaient survécu à la grande sécheresse qui avait frappé l'Afrique il y a plus de 3 millions d'années.
La sécheresse agresse la végétation et la faune. Les survivants errent maintenant sur un immense territoire de savane arborée qui va de l'Éthiopie au Tchad et à l'Afrique du Sud. Espèces disparaissent, comme le calicotère. Seuls quelques hominiens audacieux et mieux adaptés vont parvenir à survivre, les australopithèques. Plusieurs espèces, bien différentes les unes des autres, se partagent la plaine. Un seul d'entre eux peut avoir enfanté l'espèce humaine. Nos regards se tournent vers une femme. Une femme qui pourrait bien être notre grand-mère. Cette femme, c'est Lucy.
Yves Coppens, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de ceux qui ont découvert les restes de Lucy 3 200 000 ans après sa mort dans un fleuve ou un lac éthiopien asséché. C'est une des plus grandes découvertes de la paléontologie. Encore aujourd'hui, même si depuis on a trouvé des ossements humains plus anciens que ceux de Lucy, comment expliquer justement que le premier nom qui vient à l'esprit quand on parle de nos ancêtres, c'est d'abord celui de Lucy, et oui, encore aujourd'hui.
Oui, c'est amusant, hein. Mais ça nous étonne nous-mêmes, vous savez. J'y ai beaucoup pensé, et je suppose que d'abord c'est un nom facile à retenir, en tout cas pour un certain nombre de gens de cette terre. Ensuite, c'est un petit personnage, petit, quand c'est petit, c'est plus attendrissant aussi, petit personnage, féminin, c'est important, exotique et très ancien, et qui représente, peut-être, sans doute pas d'ailleurs, mais ça n'a pas d'importance, qui représente en tout cas symboliquement l'ancêtre de l'homme, la grand-mère, la vieille grand-mère là-bas du fond de l'Afrique tropicale.
C'est ce que dit d'ailleurs Claude Berling, qui lisait le texte d'un docu-fiction passionnant de Malater, qui s'appelait L'Odyssée de l'espace, et dont vous avez été le conseiller historique. Mais est-ce que c'est la grand-mère de l'homme? Est-ce que c'est un homme même? Ou une femme, enfin en l'occurrence, est-ce qu'elle appartient à l'humanité, Lucie? Parce que vous parlez plutôt d'un hominidé.
Oui, alors hominidé, c'est un terme un peu technique, un peu scientifique, qui recouvre en fait l'ensemble des préhumains et des humains, c'est-à-dire que vous et moi aujourd'hui, nous sommes aussi des hominidés. Mais dans ces hominidés, il y a donc une longue phase préparatoire, en quelque sorte, on dit ça a posteriori, hein, que l'on appelle préhumaine, et puis arrivent les humains autour de 3 millions d'années, c'est-à-dire très peu de temps après Lucy. Et Lucy n'est pas une humaine, elle est une préhumaine. Elle est dans ce grand bouquet de formes qui ont précédé l'homme et bouquet au sein duquel se trouve l'ancêtre de l'homme. Forcément.
Mais qui se distingue du singe parce qu'ils sont bipèdes, au fond,
c'est la
caractéristique de l'homme, c'est ça.
Qui se distingue du singe depuis sans doute une dizaine de millions d'années, parce que ce sont des gens qui sont en effet debout sur leurs deux pattes de derrière, qui sont bipèdes de manière permanente, et qui n'en demeurent pas moins arboricoles, c'est-à-dire grimpeurs pendant un certain temps, donc ils sont un petit peu les deux pendant un certain temps. Mais il y a aussi autre chose, on avait remarqué qu'ils avaient un petit cerveau, donc comme les singes, ça n'avait pas beaucoup intéressé, mais quand on fait le moulage de du trou qui reste dans la boîte crânienne, eh bien, on s'aperçoit que la disposition des lobes, par exemple, du cerveau est différente. C'est-à-dire que non seulement ces êtres se distinguent par leur port et leur locomotion, mais ils se distinguent aussi, en fait, sûrement par l'organisation de leur tête.
Et par le lieu où on les trouve. Parce qu'on a mis quand même beaucoup de temps, Yves Coppens, avant d'abord d'imaginer, c'est Darwin, je crois qu'il l'a fait en premier en 1871, que les premiers êtres humains étaient nés en Afrique.
Oui, il a eu quelques prédécesseurs qui n'ont pas toujours bien réussi leur déclaration, d'ailleurs. Il y a un certain Vanini qui, quelques siècles auparavant, avait déclaré qu'on devait venir de ces endroits-là, puisqu'on était si proche des singes que c'en était troublant. Et il a terminé sur un bûcher au milieu des places de Toulouse. Hein. Il y a des jours où il valait mieux pas déclarer ce que l'on pensait. Et donc Darwin, bien sûr, a repris un certain nombre de déclarations de Buffon, de Lamarck et de ses propres collègues anglo-saxons.
Et c'était en effet en Afrique qu'on trouve justement les premiers spécimens de ces préhumains bipèdes, ce qu'on appelle les australopithèques, les singes australes, hein, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, dont faisait partie Lucie. Mais alors il y a plusieurs espèces d'australopithèques, il y a les afarensis comme Lucie et puis d'autres groupes au milieu desquels elle a vécu.
Elles sont une présence, un petit groupe, bipèdes comme elles. Lucie est une afarensis. Les autres hominiens viennent d'ailleurs. Ce sont des anamensis. Elle ne peut communiquer avec eux. Ils n'ont en commun ni langage, ni odeur, ni mode de vie, ni même de reproduction possible avec elle. Lucie a maintenant été acceptée parmi eux, mais elle est surprise par tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, un obstacle s'est présenté sur leur chemin. Un obstacle que Lucie n'a jamais franchi. Lucie s'est noyée. Le corps de Lucie s'est déposé dans le lit d'un fleuve d'Éthiopie et y est resté jusqu'à ce qu'on la retrouve.
Et vous l'avez retrouvée donc 3 200 000 ans après. C'est assez extraordinaire cette distance qui nous sépare de Lucie. Alors Lucie est donc une australopithèque. Il y avait plusieurs australopithèques, plusieurs espèces d'australopithèques qui, d'après ce docu-fiction dont vous avez effectué la direction scientifique, c'est ce que vous dites. Et on la trouve dans un endroit bien particulier de l'Afrique, c'est-à-dire là où vous l'avez trouvé, le triangle des Afars. Alors, il faut expliquer ce qui s'est passé et qui un jour a fait que nos ancêtres se sont mis à se mettre sur les pieds. C'est en fait un bouleversement géologique qui s'est produit et qui en est à l'origine, Yves Coppens.
Oui, c'est-à-dire que le bouleversement géologique a entraîné des changements écologiques. Et bien sûr, chaque être vivant n'est vivant que parce qu'il est dans un environnement. Hein, c'est très tendance d'en parler aujourd'hui. Dans un milieu, et en l'occurrence, lorsque les singes se trouvaient dans les forêts, bien sûr qu'ils grimpaient, ils marchaient bien peu, mais grimpaient beaucoup, et à partir du moment où cette forêt s'est un petit peu découverte, et que petit à petit elle est devenue d'abord une savane boisée, et puis ensuite une savane beaucoup plus claire, avant de devenir une véritable steppe, eh bien, les gens s'y sont adaptés, comme tous les êtres vivants de la Terre, s'est adapté aux nouveaux changements climatiques et à la nouvelle écologie. Et ils se sont redressés sur leurs pattes de derrière. Enfin, c'est comme ça qu'ils se sont adaptés, en tout cas, à ce milieu-là. Ils auraient pu faire autre chose. Ils se sont relevés sur leurs pattes de derrière et ils se sont mis tout en continuant à grimper, comme on l'a dit, à marcher. Et cette locomotion a été d'abord un petit peu lourde, un petit peu hésitante, un petit peu consommatrice d'énergie, avant de devenir notre belle démarche fluide et exclusive d'aujourd'hui.
Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi ressemblait Lucie, qui n'appartient qu'à une espèce d'Australopithèque? J'ai sous les yeux une très jolie bande dessinée, je crois qu'elle a été faite également sous votre direction. Ça a été écrit par quelqu'un d'autre, mais vous avez vérifié tout ça, et on voit effectivement dessiner le visage de Lucie dans un environnement effectivement terrible, constamment harcelé par des animaux sauvages. À quoi ça ressemblait la vie de Lucie, la vie quotidienne de Lucie, il y a 3 200 000 ans?
Bien, Lucie, oui, il ne faut pas non plus avoir comme ça des images de peur au sein de la savane.
Quoique... Non, parce que ça finit bien, cette bande dessinée.
Oui, celle-là est très belle. Oui. Quand on vit dans la savane, hein, ce que j'ai fait pendant sûrement au total des années, J'ai campé dans cette savane, et pour cause, hein, pour des raisons professionnelles, mais pour le plaisir aussi, pendant des années. Et on est surpris de voir la manière dont les animaux craignent leur environnement, ils craignent les prédateurs. Quand on voit quelquefois les herbivores brouter, ils mangent un peu, et puis ils regardent alentour, et puis ils remangent un petit peu, mais ils sont sans cesse quand même sur le qui-vive. Alors la petite Lucie avait de quoi avoir peur, hein, parce qu'il y avait des bêtes qui n'étaient pas très drôles dans son milieu. Il y a les bêtes que l'on connaît aujourd'hui comme les lions, les panthères, les hyènes, etc. Mais il y avait aussi des bêtes avec ces immenses canines, vous savez, qu'on dit canines.
Les sabres.
Hein. Ah, c'est ça, canines en sabre, qu'on appelle tigres mais qui n'en sont pas, et qui en fait ont pour nom, enfin évidemment des noms donnés aujourd'hui, Dinophilis, Homotherium, Mécanthéreon, Machairodus, vous voyez. Donc il y en avait un joli petit choix, et ces bêtes ne devaient pas être tendres naturellement. Donc la petite Lucie, elle avait intérêt à grimper vite dans son arbre avant de se faire croquer, lorsqu'elle cherchait à terre des racines, puisqu'elle mangeait à la fois... de jeunes pousses, des fruits bien entendu, comme ses prédécesseurs, et puis des racines et des tubercules, un petit peu de manière nouvelle.
Il n'y a pas que les animaux qui étaient dangereux, il y avait aussi la nature, il y a ce fleuve qu'elle a tenté sans doute de franchir, et dans lequel elle s'est noyée jusqu'à dans la boue, et puis c'est comme ça qu'on l'a retrouvée, conservée par la boue, lorsque des pluies en Éthiopie ont balayé justement ce qui restait de la boue, et on voit apparaître ces eaux. Alors ça, c'était en 1974, vous étiez donc vous-même sous-directeur au Musée de l'Homme. Il y avait aussi un Américain, Donald Johansson, et puis un autre Français, Maurice Taïeb, que l'on écoute ici dans cette archive de 1976, raconter comment il a découvert Lucie.
Lucie a 1m20. C'est, disons, une cousine du premier homme. Lucie a été trouvée en Éthiopie, pas très loin de la mer Rouge. Cet environnement de Lucie, elle a été trouvée dans des dépôts qui sont un ancien lac, et avec une faune de savane ouverte. C'est désertique, c'est assez chaud, il y a des acacias et il y a des animaux tels que le zèbre, quelques antilopes. Et il semble que Lucie et ses cousins vivaient en harmonie avec une nature, mais déjà l'homme commence à conquérir son territoire.
Vous savez pourquoi on l'appelait Lucie ?
Non.
Parce qu'ils étaient sous la tente et ils étaient en train d'écouter le fameux disque des Beatles.
Lucy in the Sky.
Voilà. Et par conséquent, comme il fallait lui donner un nom, ils l'ont appelé Lucy.
Lucy in the Sky with Diamonds, ce n'est pas, c'était les Beatles, non pas pour que l'on donne le nom de Lucy à celle que vous avez découverte, Yves Coppin, à 174, parce que tout simplement, Lucy in the Sky with Diamonds, ça fait LSD, hein, je crois que c'était pour ça. Mais c'est pas pour cette raison que vous avez décidé d'appeler Lucy, Lucy. C'est assez extraordinaire, comment ça s'est passé exactement?
Ben, ça s'est passé de la manière suivante. D'abord, Lucy s'appelait AL288, vous voyez, c'est pas très brillant.
Non, c'est pas romantique.
Ça veut dire à phare localité 288, c'était le numéro numéros du catalogue. Et puis, on a trouvé ces ossements de jour en jour. Et c'est lorsque l'on a trouvé le sacrum et un morceau du bassin qu'on s'est dit, mais bon sang, c'est en outre non seulement un seul individu, mais c'est un sujet féminin. Et comme le soir, vous savez, il y a le côté très agréable de courir les savanes et puis de collecter comme ça des ossements. Il y a le côté extraordinaire de les reconnaître et puis de se dire qu'on a fait une belle découverte. Mais il y a ensuite le travail plus ingrat le soir de marquage. Il faut marquer à l'encre de Chine les fossiles en question pour que on ne risque pas de les mélanger. Et c'est quand on marque les fossiles, on écoute la radio, on écoute des disques, et en l'occurrence, on avait ce petit disque des Beatles, et on a écouté Lucy in the Sky, et on s'est dit quand même, Lucy, ça serait plus joli que 288, et elle est devenue comme ça, petit à petit, Lucy, mais pas du premier coup, quoi.
C'est pas le seul Australopithèque afarensis, on a trouvé d'autres depuis. En revanche, l'importance de cette découverte, c'est que jamais on a trouvé autant d'ossements du même fossile.
On est en train. Oui, d'abord, comme vous le dites, Lucy, c'est un individu, mais que l'on a donc déterminé. C'est nous, bien sûr, qui avons attribué le nom d'Australopithecus afarensis à ce petit squelette. Mais on avait déjà...
À cause du territoire des Afars, vous l'avez trouvé.
C'est ça. Mais on avait trouvé aussi beaucoup d'autres ossements dans ces années-là. D'autres ossements ont été trouvés depuis, c'est-à-dire que l'espèce en question, elle est connue en gros entre 4 millions et 3 millions d'années. Et elle est connue à travers toute cette Afrique orientale, c'est-à-dire qu'on la connaît en Éthiopie, mais on l'a probablement retrouvée aussi au Kenya et peut-être en Tanzanie. Et récemment, vous savez, il y a un de mes élèves d'ailleurs, éthiopien qui s'appelle Zeresenay, qui a découvert un squelette de jeune afarensis dans un site voisin de celui de Lucy, qu'il a appelé Selam. Et donc Lucy a désormais un enfant, si je puis dire. C'est sans doute une petite fille, sans doute de 3-4 ans, et c'est extrêmement intéressant et important.
Oui, mais elle aussi, elle aura un lointain parent, parce qu'après elle, on l'a longtemps considérée comme la doyenne de l'humanité, et puis après elle, qu'est-ce qu'on découvre 7 ans plus tard? Eh bien, les restes d'un hominidé, en réalité le crâne simplement, d'un hominidé beaucoup plus vieux que Lucy, est découvert par Michel Brunet. On écoute le journal de France 2, David Pujadas, le 10 juin 2002.
Une découverte exceptionnelle au Tchad, celle du « nouveau doyen » entre guillemets de l'humanité, un crâne de 7 millions d'années a été mis au jour. Les théories sur la naissance de l'homme pourraient s'en trouver modifiées. D'abord les images, elles sont commentées par Romuald Bonan.
Pour ce paléontologue français, c'est la récompense de toute une vie. Au creux de ses mains, un crâne fossilisé de 7 millions d'années qu'il présente au président tchadien. Les restes du plus ancien représentant sur Terre de la lignée humaine. Une découverte réalisée ici, il y a un an, au nord du Tchad. Le désert de Djourab, balayé par les vents. Enfoui à quelques centimètres dans le sable, les restes de Toumaï, comme l'ont surnommé les Tchadiens.
C'est vraiment déjà très humain, la face. Toumaï est une créature complètement nouvelle. C'est pour ça qu'on en a fait, sur le plan scientifique, un nouveau genre et une nouvelle espèce.
Michel Brunet, donc, qui a découvert Toumaï. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que avec Lucy, on était à 3 millions et demi d'années, donc on est à 7 millions. Autrement dit, le temps qui sépare Toumaï de Lucy est aussi long que celui qui nous sépare de Lucy. C'est absolument phénoménal, ces distances en temps. Mais est-ce que c'est encore ou déjà un homme ou un hominidé?
C'est probablement, oui, un hominidé. Et c'est probablement une de ces branches du bouquet dont je parlais tout à l'heure. Et dans ce bouquet, il n'y a pas que Toumaï il y a 7 millions d'années. Pour le moment, c'est l'ancêtre le plus ancien.
On n'a que son crâne.
Il y a d'autres éléments. Ah oui. Il y a des dents, il y a des bouts de mâchoire, et puis il y a des éléments qui ne sont pas encore, encore décrits. Mais ce n'est pas un squelette comme celui de Lucy. Mais entre Toumaï et Lucy, et l'Australopithecus afarensis, il y a un certain nombre d'autres éléments, comme Ardipithecus, qui a près de 6 millions d'années, comme Aurorine, qui a près de 6 millions d'années. C'est-à-dire que tout ça se remplit, si je puis dire. Ça se complète, en quelque sorte.
Mais duquel descendons-nous, si nous descendons de l'un d'entre eux?
Ben, on se le demande. Je ne peux pas vous répondre. Moi, j'ai des petites préférences, mais je ne peux pas vous répondre parce qu'en fait, il n'y a pas de vrai consensus dans la communauté scientifique internationale. Je peux vous parler de deux d'entre eux. Celui dont on a entendu parler dans le film L'Odyssée de l'espèce, que l'on appelle Australopithecus anamensis, et que j'aime bien parce que lui ne grimpe plus. Lucie continue à grimper tout en marchant sur ses deux pattes derrière, tandis qu'anamensis marche
et bipède.
Et ne grimpe plus. Donc ça lui donne une petite préférence pour être notre ancêtre, puisque nous-mêmes ne grimpons plus guère. Et d'autre part, un autre que l'on appelle Kenyanthropus, on n'en a pas encore parlé de celui-là, c'est un de ces préhumains. Hein. Il y a beaucoup de préhumains, et c'est là-dedans qu'il faut bien sûr rechercher l'ancêtre de l'homme. Et Kenyanthropus, lui, a une chose intéressante, c'est qu'il a une face plate, alors que Lucie a encore un petit museau, en quelque sorte. Toumaï aussi a un petit museau, quoique il ne soit pas trop important. Et donc, Kenyanthropus, qui a à peu près l'âge de Lucie, a l'avantage d'avoir une face plate, mais on ne connaît pas les membres de Kenyanthropus. Donc on ne sait pas si Kenyanthropus marche et grimpe, ou grimpe seulement, ou marche seulement.
Mais c'est toujours pas un homme. Hein, pour être un homme, il faut quelque chose qui a été inventé par une nouvelle espèce, justement, d'hominidés. C'est entre 200 000 et 600 000 ans après Lucie.
Un nouvel hominien arrive. Un des plus grands inventeurs de notre famille. Homo habilis. L'homme habile. Son invention va changer notre destin. Chaque jour, Habilis s'interroge sur les mystères de la nature. Son esprit s'éveille. Il cherche à comprendre. La pierre coupe la pierre. La pierre coupée coupe la main. Si elle coupe la main, la pierre coupée peut couper autre chose. Sans le savoir, Jeune Habilis vient de faire une invention phénoménale, l'outil.
Alors ça, c'est un des passages les plus saisissants, je trouve,
joli, hein,
de ce film, c'est-à-dire l'invention de l'outil. Là, on n'est plus dans les hominidés, on n'est plus chez les australopithèques, on est chez les premiers hommes, c'est-à-dire Homo habilis. Est-ce que c'est pas la marche, puisque ça existait déjà avant, mais est-ce que c'est l'outil qui fait l'homme, Topaz ?
Pour moi, non. Pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est dans une histoire biologique, et il y a un changement climatique depuis 10 millions d'années. Hein. Mais ce changement climatique, il est progressif, c'est un assèchement. Il se fait par étapes. Et il y a une étape à 10 millions d'années, il y en a une autre autour de 4 millions d'années, il y en a une autre autour de 3 millions d'années. Et à 3 millions d'années, pour s'adapter à ce nouveau changement climatique, le préhumain que l'on n'a pas réussi à déterminer tout à l'heure devient homme. Et il devient homme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est toujours debout, bien sûr, il l'est depuis longtemps, il est toujours bipède, bien sûr, mais cette fois bipède exclusif, un peu comme Anamensis qui le précédait. Il a un cerveau qui non seulement se complique, mais aussi grossit, devient deux fois plus important que le cerveau de la petite Lucie, par exemple. Et il a, par ailleurs, une denture qui lui permet de manger aussi bien des animaux, c'est-à-dire de la viande, que des plantes. Et ça, pour une raison toute simple, c'est qu'il y a moins de plantes, donc il faut bien qu'il agrandisse son régime pour survivre. Et ce bonhomme-là, parce qu'il devient plus mobile, étant donné qu'il chasse, parce qu'il devient plus malin, puisque son cerveau se développe, se voit en quelque sorte en lui-même émerger la conscience. Théard de Chardin, que vous avez cité tout à l'heure, que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup un certain nombre de pensées. Théard de Chardin disait qu'au lieu de savoir comme un animal, il savait qu'il savait. Et c'est par excellence la définition de la réflexion comme dans un miroir.
C'est ça qui fait l'homme.
Et sachant qu'il sait, Au lieu de prendre un caillou et de s'en servir, il y pense un petit peu, comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans le film. Il résonne en quelque sorte et il tape dessus pour changer la forme d'un objet à son bénéfice. Ce que l'on n'a jamais cessé de faire depuis ces 2,5 millions à 3 millions d'années.
Et là, on est encore en Afrique. Oui, et brusquement, il la quitte. Pourquoi ? Dans quelle direction ? À quel moment précis arrive-t-il en Europe, en Asie, jusqu'en Australie ?
Ah ben, il ne la quitte pas, mais il agrandit son territoire. Il ne s'en va pas en disant « Salut l'Afrique, je m'en vais », mais il agrandit son territoire de l'Afrique tropicale à une Afrique qui ne l'est plus. Il arrive jusqu'au bord de la Méditerranée. Là, on a des outils au Maghreb, des outils de pierre taillée au Maghreb qui ont près de 2 millions d'années. Il arrive au Proche-Orient, où il y a aussi des outils de 2 millions, peut-être même un petit peu plus de 2 millions d'années en Israël. Et à partir de cette plaque tournante qu'est le Proche-Orient, Proche-Orient au sens large, ça monte jusqu'au Caucase, où il y a un très très beau site en Géorgie, eh bien il s'agrandit, il s'élargit, il élargit toujours son territoire, aussi bien vers l'est que vers l'ouest. C'est-à-dire que moi je suis intimement persuadé, mais ça ne suffit pas en science, il faut découvrir, que l'homme dès 2 millions d'années, voire 2 millions et demi d'années, était au bout de l'Europe et au bout de l'Asie.
Est-ce qu'il n'y était pas avant ? Parce qu'il y a un pays, par exemple, qui revendique la présence des premiers humains chez lui, c'est la Chine.
Oui, mais oui et non. Moi, je travaille aussi en Chine, près de Pékin. Et je suis en relation, bien sûr, avec tous les chercheurs de mes disciplines chinois. Et il se range tout à fait bien aux opinions générales, mais évidemment, chaque pays a un petit peu envie d'être le berceau, ou au moins une partie du berceau de l'humanité. Mais il semble bien, pour des raisons simples, des raisons très logiques, que comme l'homme est un primate et que tous les primates sont tropicaux, l'homme soit né sous les tropiques, et d'autre part, comme les êtres qui nous sont incontestablement les plus proches sont les chimpanzés, et que les chimpanzés sont africains, il y avait toutes les chances pour que cette origine soit à la fois tropicale et africaine, ce qui a bien l'air de se confirmer.
Tout ça, c'est passionnant, Yves Coppens, mais est-ce que Merci. Ça sert à quelque chose ? Parce que vous écrivez, c'est la raison justement pour laquelle vous travaillez, la préhistoire nous fait comprendre qui nous sommes, comment nous le sommes devenus et pourquoi. Mais...
Oui, ben je crois que c'est non seulement important, mais essentiel. Alors évidemment, je prêche pour ma petite paroisse, mais c'est essentiel en ce sens que lorsque vous mettez l'homme dans le cadre de l'histoire de la vie, 4 milliards d'années, dans le cadre de l'histoire de l'univers, au moins 12 milliards d'années, vous voyez que c'est un petit mammifère comme ça, sur une petite planète autour d'une étoile qui s'appelle le Soleil, parce que c'est la nôtre, comme il y en a des milliards, dans une galaxie, comme il y en a aussi des milliards. Donc c'est un petit truc de rien du tout. Et en même temps, dans l'état de nos connaissances, c'est le seul, quand même, le seul réceptacle de la vie pensante, de la matière pensante, précédée par la matière vivante et précédée par la matière inerte.
Merci Yves Coppens. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de vos livres. Le genou de Lucie, publié en 2001 chez Odile Jacob. Histoire de l'homme et changement climatique aux éditions Fayard dans la collection Collège de France. Et puis L'Odyssée de l'espèce que vous avez dirigé. Un livre aussi publié chez LGF en livre de poche. Et puis pour les plus jeunes, je le disais tout à l'heure, un beau livre, Lucie, l'espoir, une bande dessinée de Patrick Norbert et Tanino Liberator, que vous avez postfacé et qui vient de paraître chez Capitole Éditions. À lire également Évolution, un très beau livre de Jean-Baptiste de Panafieux et Patrick Gris, auteur de magnifiques photos de squelettes des musées d'histoire naturelle, publiées aux éditions Xavier Barral, Muséum d'histoire naturelle. Vous avez pu entendre des extraits du film L'Odyssée de l'espèce de Jacques Malaterre, dont vous avez été le conseiller scientifique Yves Coppens, et qui est disponible en DVD chez France Télévisions, ainsi qu'un extrait du journal de France 2. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Benoît Massir, Olivier Daligaud, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, en partenariat avec les cahiers de sciences et vie, le Vatican.